Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission « Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes ». Aujourd'hui, nous allons parler de contraception chez les jeunes. La contraception est l'ensemble des méthodes permettant d'éviter les grossesses non désirées, de prévoir, planifier et espacer les grossesses en fonction des envies et moyens des femmes, des filles et ou des couples. Merci à nos invités d'être venus partager leur point de vue avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous déjà vous présenter? Alors, je me retourne à ma gauche. Madame, bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Michel Poyega. Je suis ménagère de profession et mère de famille.
Toujours à ma gauche, mademoiselle, bonjour.
Bonjour, je réponds au nom de Bonkungu Laure Nadine, je suis étudiante en anglais.
Alors, le monsieur, lui, il est face à moi. Mm-hmm. Bonjour, monsieur.
Bonjour, moi, c'est Widrao Wendemanagre Arsène, issu de l'association SOS Jeunesse et Défi.
Merci à tous nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Débutons cette émission avec l'histoire du jour. L'histoire du jour nous plonge dans le parcours de Rose qui a décidé de se donner en guise de cadeau à son copain à l'occasion de la fête des amoureux Saint-Valentin, célébrée tous les 14 février de l'année. Écoutons.
J'ai 19 ans et Rose, c'est mon nom. Comme les autres jeunes de mon âge, j'adore les sorties. J'aime m'amuser. Aller en boîte, faire la fête avec les amis. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient s'imaginer, je n'étais pas frivole. Je sortais avec Fidel, un garçon gentil, beau, cool. Ce que j'appréciais surtout chez Fidel, c'est que malgré nos 3 années de relation, il n'a jamais demandé à faire l'amour avec moi. C'était la veille de la Saint-Valentin. Après réflexion, j'ai décidé de me donner à Fidel comme preuve de mon amour. La Saint-Valentin, c'est la fête que tous les amoureux célèbrent à Ouaga et se donnent des cadeaux. Et pour moi, le meilleur cadeau que je pouvais lui offrir, c'était moi-même, ma virginité. Mais il y avait un problème. J'étais novice en matière de sexualité. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel auparavant. Et du coup, je ne savais pas trop quelles précautions prendre. Il était impossible pour moi de parler de sexe avec mes parents. À l'école aussi, on n'en parlait pas. J'avais décidé de me confier à ma copine Rama. Oui, elle. Je sais qu'elle a déjà eu affaire à des rapports sexuels. Elle savait comment ça se passait. Et c'est sûr qu'elle pourrait me conseiller. C'est ainsi que je lui ai exposé mon problème. Rama, tu sais, demain c'est la Saint-Valentin et je voudrais m'offrir à Fidel en guise de cadeau. Ça fait quand même 3 ans qu'on sort ensemble. Mais j'ai peur. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Enfin ma copine s'est décidée à passer à l'acte. Ce n'est pas trop tôt, hein? Et c'est quoi ta peur?
J'ai peur de tomber enceinte.
Non ma copine, mais ça ce n'est pas un problème. Tu sais, moi j'ai commencé depuis l'âge de 14 ans. Et je n'ai jamais eu de problème.
C'est quoi ton secret alors?
Ce sont les épices. C'est un produit que l'on suce avant d'aller au rapport sexuel. Je vais t'en offrir.
Ah bon? Moi je pensais au préservatif.
Jamais ma copine, jamais. Tu ne vas jamais ressentir de plaisir. Ce n'est même pas doux. C'est comme manger une banane avec la peau. Ma copine, oublie le préservatif.
Rama a fini par me convaincre. J'ai finalement décidé d'utiliser les épices. Le soir de la Saint-Valentin, Fidel et moi nous sommes sortis. Nous avons été sur un film romantique au ciné. Et juste après, il m'a offert un super cadeau.
Alors bébé, tu aimes mon cadeau? Ça te plaît?
Oui mon amour, je l'adore. Mais je t'adore encore plus.
Et toi, qu'est-ce que tu m'offres comme cadeau?
Allons chez toi, tu verras. C'est une surprise. Fidèle et moi, nous sommes partis chez lui. Imaginez la suite. C'était magique. 4 jours plus tard, une plaie rouge vive, indolore et inodore, est apparue sur mon sexe. J'étais un peu inquiète, mais finalement, elle a disparu. J'en ai parlé à personne. Les deux semaines qui ont suivi, j'ai commencé à ressentir des douleurs. J'avais de plus en plus mal au niveau du sexe. J'étais très inquiète. Je ne pouvais pas me confier à mes parents. Je n'avais personne à qui en parler. J'avais très honte. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue au centre d'écoute pour jeûne. Après avoir raconté mon histoire à la sage-femme, elle m'a consultée. Je n'étais pas enceinte, mais je souffrais de la syphilis, une infection sexuellement transmissible. La sage-femme en a profité pour me dire qu'il ne fallait jamais se fier à l'apparence physique d'une personne ni aux conseils de certains amis. Cette fois-ci, c'est la syphilis. Mais une prochaine fois, ça pourrait être le VIH. Elle m'a également montré toutes les méthodes contraceptives, dont les pilules, les injectables, les implants et surtout les préservatifs qui offrent une double protection, c'est-à-dire qui protègent à la fois contre les IST, mais aussi contre les grossesses non désirées. J'ai suivi mon traitement et aujourd'hui je suis guérie. Mon erreur, c'était de m'être confiée à une amie qui n'avait pas les bonnes informations sur la sexualité et la contraception. L'apparence de fidèle m'a aussi trompée. Je l'ai prévenue d'aller se faire consulter parce que je pense que fidèle est loin d'être fidèle.
Après avoir entendu cette histoire que Rose vient de nous narrer, je me retourne vers mes invités pour recueillir leur réaction. Comme on le dit, honneur est aux femmes. Michel, on commence par vous.
Selon moi, ma compréhension, Rose n'était pas informée. Elle ignorait tous les dangers liés au rapport sexuel. Et sa copine aussi n'avait pas toutes les informations. Et c'est dans ça qu'elle est tombée dans le piège. Heureusement pour elle, elle n'a pas eu de problème grave en tant que telle. Ça pouvait être plus grave que ça. Mais heureusement, elle a attrapé une maladie qu'on pouvait soigner dans les centres de soins.
Alors, on retient avec vous que Rose a été plus ou moins chanceuse.
Oui.
Alors, on est avec Nadine maintenant. Nadine, on va écouter également votre réaction.
Bon, je peux dire que l'histoire de Rose est un exemple d'histoire que plusieurs filles font l'expérience presque tous les jours dû au manque d'informations sur la contraception.
Le seul monsieur qui m'accompagne sur le plateau, Arsène aussi a écouté cette histoire. Comment vous pouvez réagir donc face à ce problème?
Pour ma part, je pense que l'histoire de Rose doit enseigner beaucoup de filles et de jeunes aussi. Parce que je pense que c'est des relations d'hommes à filles qui entraînaient ce problème. Et c'est le manque d'informations qui a conduit Rose dans cette histoire. Et je pense que pour beaucoup de filles ou de jeunes, de façon générale, ils doivent toujours aller à la source, ça veut dire se référer à un agent de santé ou se référer dans des centres pour prendre des informations avant d'engager ces gens du truc. Parce que quand on voit l'histoire de Rose, on voit que c'est révélé qu'elle a eu une plaie. Elle a d'abord vu une plaie au niveau de son sexe, une plaie rouge, et la plaie a disparu. Donc pour elle, c'était fini. Voilà. Et après, ça réapparaît. Pourtant, et ces genres d'infections peuvent vraiment conduire vraiment et peuvent causer beaucoup de dégâts et pour la jeune fille. Surtout que quand c'est une infection qui dure trop, ça peut vraiment entraîner des problèmes de stérilité et bien d'autres problèmes.
Toujours dans le cadre de notre sujet, nous nous sommes posé la question de savoir si les populations sont informées sur la contraception. Pour en avoir le cœur net, nous avons demandé à des personnes dans les rues de Ouagadougou de citer quelques moyens de contraception qu'elles connaissent. Leur réponse. connaissez-vous des méthodes de contraception?
Comme méthode contraceptive, premièrement, j'allais dire l'abstinence, voilà, qui est une méthode contraceptive naturelle. Et après ça, il y a le stérilet, il y a le norplan, il y a l'injectable. C'est ce que je peux dire.
Oui, je connais des méthodes de contraception. D'abord, il y a l'abstinence. Ensuite, comme on nous enseigne à l'école aussi, il y a les préservatifs, il y a les pilules, il y a le norplan. Bon, pour ne citer que ceux-là.
Je connais beaucoup. Beaucoup, mais les noms là, je ne connais pas pour vous. Je vais citer étape par étape. Il y a des piqûres, il y a des médicaments. Il y en a aussi, on met dans les bras. C'est beaucoup. Il y en a aussi, on met dans les sexes.
Parlant de méthodes de contraception, il faut dire qu'il y en a beaucoup. Mais moi, personnellement, ce que je connais, bon, je peux parler par exemple de Norplan. Je peux parler de coït interrompu, ce qu'on nous a d'ailleurs enseigné à l'école. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais à mon niveau, c'est ce que je connais.
Moi, je vais commencer à haut de l'échelle. La méthode chirurgicale qui consiste à intervenir en chirurgie pour bloquer l'ovulation de la femme. En plus de ça, il y a la méthode... l'utilisation des préservatifs, il y a encore la prise de pilules et l'abstinence.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission « Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes ». Notre thème du jour porte sur la contraception chez les jeunes. Alors, avant de continuer le débat, j'aimerais vous donner quelques informations sur la contraception. Il faut le savoir, au Burkina Faso, seuls 6% des filles de 15 à 19 ans mariées utilisent une méthode contraceptive moderne selon les enquêtes démographiques et de santé. 21% des filles de 15 à 19 ans mariées souhaiteraient utiliser une méthode contraceptive, mais ne le font pas. Il y a là un besoin non satisfait. Au Burkina, très peu de jeunes filles mariées sexuellement actives utilisent une méthode moderne de contraception et plus de 2 filles sur 10 souhaiteraient utiliser une méthode contraceptive mais ne le font pas. À présent, nous revenons sur notre plateau. Et une fois de plus, je vais demander la réaction de nos invités sur quelques questions concernant notre sujet. Mes chers invités, connaissez-vous des jeunes sexuellement actifs qui ont recours à la contraception? On va garder l'ordre d'intervention. La première question vous revient à vous, Michel.
Oui, je connais personnellement des jeunes actifs, sexuellement actifs qui utilisent des méthodes contraceptives. Par exemple, il y a ma sœur qui a 15 ans, qui utilise la pilule, qui est une méthode contraceptive. Et il y a aussi des jeunes du quartier qui souvent, en groupe, s'asseyent pour débattre sur ce sujet. Surtout les filles qui disent souvent qu'elles ont des problèmes avec les différentes méthodes contraceptives. Ils peuvent dire que tel produit, ça marche avec moi, et l'autre dit non, ça, c'est pas bon. J'en connais qui échangent beaucoup là-dessus.
Il y en a qui se confient à vous?
Oui.
La même question à vous, Nadine. Connaissez-vous des jeunes qui utilisent des méthodes de contraception?
Oui, je connais beaucoup de jeunes qui utilisent des méthodes de contraception. À l'université, on a souvent l'habitude de discuter entre copines. Souvent, on entend aussi des jeunes garçons parler de méthodes contraceptives. Lors aussi de nos campagnes de sensibilisation, on a souvent... l'habitude de causer avec des jeunes qui nous posent des questions pour avoir plus d'informations sur telle ou telle méthode ou les avantages ou inconvénients d'une méthode qu'ils utilisent déjà.
Arsène, oui. Vous, dans votre cadre de vie, connaissez-vous des jeunes qui pratiquent les méthodes de contraception?
Oui, j'en connais beaucoup. Et il faut reconnaître que c'est les jeunes qui utilisent vraiment le plus les méthodes de contraception. Les garçons aiment utiliser les préservatifs et lors de nos campagnes de sensibilisation, nous offrons les préservatifs. Et au niveau des sites, les sites de professionnels du sexe, on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles dans ce milieu aussi qui en demandent aussi beaucoup. Parce que, bon, ça, on sait que c'est leur outil de travail. Et sans ça, ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est pour dire que les préservatifs, c'est beaucoup utilisé par les jeunes. Et maintenant, il y a d'autres jeunes aussi qui préfèrent, par exemple, d'autres méthodes, et comme par exemple les Norplan. J'ai vu beaucoup de jeunes filles, surtout des étudiantes et élèves, utiliser ça. Maintenant, elles utilisent ça parce que c'est une méthode qui, une fois qu'elle s'est placée, ça leur permet en tout cas de sa longue vie quoi, avec elle. Parce qu'elle peut faire des rapports et si son partenaire est sain, sans avoir de problème.
Alors, une autre question que je jette comme ça sur la table, pourquoi ces jeunes ont recours justement aux méthodes de contraception qui se jettent à l'eau?
Donc, je continue pour dire que si ces jeunes se jettent à l'eau pour ces contraceptions, c'est pour vraiment lutter contre beaucoup de problèmes. Parce que nous voyons que ces derniers temps, il y a trop de grossesses précoces, surtout en milieu scolaire. Voilà, donc pour épargner à ces problèmes, et beaucoup de jeunes filles recourent par exemple à des centres de santé ou à nos conseils pour pouvoir avoir ces méthodes-là. Parce que une fois qu'elle arrive à utiliser correctement ces méthodes, et elle peut vraiment éviter les grossesses. On a vu beaucoup de filles qui ont été chassées du domicile et dont l'école a été vraiment arrêtée comme ça et pour cause de grossesse. Voilà, donc je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup recourent vraiment à ces méthodes de contraception.
Alors, Laure, vous êtes à l'université. Pourquoi les jeunes étudiantes ont recours aux méthodes de contraception? J'ai dit jeunes étudiantes, mais je vais ajouter aussi les étudiants parce que ça concerne tout le monde.
OK. Au milieu universitaire, on utilise la méthode de contraception pour éviter d'avoir une grossesse indésirée et aussi pour éviter des maladies. Parce que, bon, en tant qu'étudiant, on ne peut pas se permettre de faire des enfants ou de prendre vraiment une maladie très dangereuse.
Mais certains disent, c'est pour sourire, hein, que les jeunes ont plus peur des grossesses que des maladies. Est-ce que c'est vrai?
Bon, souvent, le manque d'informations fait que aussi on utilise la méthode parce qu'on sait que si on prend une grossesse à la maison, ça va chauffer. Mais on oublie qu'on peut attraper une maladie qui est plus grave même que le fait d'avoir une grossesse. Parce que si tu as une grossesse, 9 mois plus tard, tu accouches ton enfant et c'est fini. Mais tu peux prendre, par exemple, le VIH et tu seras obligé de prendre des ARV toute ta vie. Donc, je crois que c'est le manque d'informations qui amène tout ça. On voit le côté grossesse indésirée sans voir derrière qu'on peut avoir des maladies plus graves que la grossesse.
Alors, je vais dire tout simplement que la grossesse, ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Bon, on peut le dire ainsi.
Alors, madame, on est à vous. Pourquoi les jeunes ont recours à ces méthodes-là? Est-ce que ceux qui se confient à vous vous expliquent ces raisons?
Je les rejoins à leur intervention. Effectivement, c'est sur le plan grossesse que les jeunes utilisent les méthodes contraceptives. Parce que quand tu prends une grossesse indésirée, tu es exposé à beaucoup de problèmes, surtout sur le plan social. Si tu n'as pas un mari, tu te retrouves avec une grossesse, il y a ta famille qui te rejette, tes amis te rejettent, tu ne peux plus rien faire. Voilà. Et si tu es élève, comment tu vas pouvoir poursuivre tes études? Donc, ceux qui me confient, c'est surtout ça. Et je pense qu'elles ne sont pas bien informées. Si elles étaient bien informées, elles n'allaient pas voir le côté grossesse, mais surtout sur le plan et santé. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
D'accord. Il y a un autre exercice auquel je vais vous soumettre. On l'a fait avec nos amis dans les rues de Ouagadougou. À vous aussi, je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les différentes méthodes de contraception que vous connaissez?
Personnellement, j'en connais beaucoup. Il y a la meilleure protection, c'est l'abstinence. Ensuite, il y a la fidélité. Si tu es fidèle à ton partenaire, ça va.
Facile à dire, hein?
Mais bien sûr. Il y a la fidélité et au niveau des centres de soins, il y a les pilules, il y a les injectables, il y a la Jadel et puis, comment dirais-je encore, la méthode de la glaire cervicale que souvent, quand tu pars dans les centres de santé, au niveau de la planification familiale, on vous explique tout ça. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est ce que je connais.
On comprend là que madame fréquente les centres de santé et qu'elle est bien informée sur la question. Et vous, Laure, est-ce que vous êtes aussi bien informée que madame? Citez-nous les méthodes que vous connaissez.
Bon, en plus de ce qu'elle a déjà cité, je pourrais parler du stérilet, des spermicides, du collier, qui sont aussi des méthodes modernes.
Alors, pour vous, jeune fille qui n'avez pas encore enfanté, quelles sont les méthodes que vous privilégiez?
Bon, la méthode que j'utilise personnellement, c'est le préservatif parce qu'il me protège aussi des grossesses et aussi des maladies.
Lequel des préservatifs?
Je préfère le préservatif féminin.
Parce que vous êtes femme.
Non, pas parce que je suis femme, parce qu'il a beaucoup plus d'avantages que le préservatif masculin.
D'accord, on a un homme sur le plateau, heureusement. On va demander à vous aussi, Arsène, de nous citer les méthodes que vous connaissez.
Je pense que les autres ont déjà dit toutes les méthodes. Mais pour ajouter, je vais ajouter la ligature des trompes. Voilà. Et il y a aussi une méthode naturelle qu'on appelle la méthode mama. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les spermicides.
Alors, parmi tes méthodes, il y en a une qui m'a intéressé particulièrement. Vous avez parlé de la méthode mama. C'est quoi cette méthode? Expliquez-nous un peu.
Je pense que la méthode mama, et c'est une méthode que la femme peut faire et sans prendre un produit, par exemple. Ça veut dire que à partir du moment que la femme a accouché, on dit que c'est 45 jours après normalement qu'elle doit et peut rentrer avec son mari. Voilà. En ce moment, et la méthode prend effet si la femme décide de donner que le lait maternel à l'enfant, sans pour autant ajouter de l'eau, ne pas donner de l'eau à l'enfant, ni purger l'enfant. Et s'assurer aussi qu'une tierce personne ne prenne l'enfant et lui donner de l'eau ou lui purger. Et cette méthode-là peut être efficace durant 6 mois. Voilà.
Alors, on peut dire d'ores et déjà que ce sont nos grands-mères justement qui maîtrisaient cette méthode, parce qu'on a vu que chez nous en Afrique, lorsqu'une femme accouchait, elle changeait carrément de maison. Elle rejoignait la maison de la maman et le mari restait célibataire un moment. Mmh. C'est ça la méthode maman, si je veux bien comprendre alors.
Non, c'est pas ça et la méthode maman. Ça veut dire qu'en ce moment, si cette méthode est mise en place, la femme peut toujours faire les rapports sexuels avec son mari sans problème.
Ah, ok.
Mais maintenant, et pour revenir à ce que vous venez de souligner, ça c'est une méthode aussi, mais ça c'était dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas les produits de contraception qui sont disponibles. Parce que c'est après beaucoup d'études quand même qu'ils ont amené, par exemple, ces méthodes de contraception modernes. Dans le temps, quand il n'y avait pas ces méthodes de contraception, et la femme pouvait, et après avoir accouché, aller chez ses parents ou bien et chez les parents du monsieur et attendre quelques temps et puis revenir. Et beaucoup disent, par exemple, qu'elle doit rester là-bas jusqu'à ce que les pieds de l'enfant la soient noirs, se noircissent avant de revenir. Mais présentement, par exemple, si on dit, par exemple, à une femme d'aller s'asseoir durant ce temps et puis revenir, elle risque de revenir trouver que son mari a beaucoup de femmes à la maison. Donc maintenant, comment faire pour que la femme puisse être à la maison et utiliser la contraception? Voilà, donc c'est pourquoi il y a ces contraceptions maintenant. Voilà, pour permettre à la femme de faire la contraception et toujours rester dans le domicile conjugal.
D'accord. Il faut le dire, notre sujet est assez vaste. C'est pas sûr qu'on puisse l'épuiser au cours d'une seule émission, mais de temps en temps, je vous permets comme ça de rebondir sur nos questions. En guise de complément, je vais vous demander quelles sont les méthodes qui paraissent les plus adaptées aux jeunes et pourquoi, selon vous. Alors, la parole est là. À qui veut la prendre? Laure, on y va.
En tant que jeune, je crois que la méthode la plus appropriée, c'est le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, parce que en plus de me protéger des grossesses Il me protège aussi des maladies, surtout le préservatif féminin qui me protège des infections sexuellement transmissibles parce qu'il couvre carrément toute la vulve.
Est-ce que les autres partagent l'avis de Laure?
Je partage son avis, mais je veux aussi ajouter la pilule parce que beaucoup de jeunes filles ont souvent des règles douloureuses. Donc, alors que la pilule permet de corriger ces problèmes douloureux.
Arsène?
Oui, je partage l'avis de Laure et elle a dit un point qui est très important. Les jeunes doivent par exemple utiliser le préservatif parce que c'est une méthode à double barrière, comme elle a si bien dit. Voilà, et ça, bon, ça permet aux jeunes de jouir de leur sexualité comme ils veulent en utilisant cette méthode-là.
Ah, alors, on va dire qu'avec Arsène, notre plateau est vraiment béni. Il nous apprend encore une méthode à double barrière. Bon, on va continuer parce qu'il y a toujours une question qui vous attend. Toujours selon votre entendement, quels sont les obstacles qui limitent l'accès des jeunes aux informations et aux services en matière de contraception? On va rester avec vous, Arsène.
En ce qui concerne la contraception, il peut vraiment être leur ignorance. Voilà, l'ignorance peut être source d'obstacles. Parce que présentement, les campagnes de sensibilisation, par exemple, ne touchent pas, par exemple, beaucoup de jeunes. Et il y a, en plus de cela, il y a aussi le refus. Parce que il y a aussi certains pour leurs convictions religieuses, par exemple, refusent, par exemple, d'utiliser la méthode. Et beaucoup de fois, on a remarqué ces cas-là, qui pratiquement refusent catégoriquement d'utiliser. Et le plus souvent, la femme même peut vouloir même utiliser une méthode, et l'homme, le plus souvent, refuse. Donc, souvent même, le partenaire même est un obstacle pour l'utilisation de la méthode.
Les obstacles, toujours, Laure, on est à vous.
En tant que jeune, je peux dire que la principale barrière qui empêche les jeunes d'avoir accès aux services de planification familiale, c'est le manque d'information. On voit que dans notre pays, l'éducation sexuelle fait défaut dans les écoles. Ça fait que plusieurs jeunes ne sont pas au courant de l'existence de ces méthodes contraceptives. Ceux aussi qui sont au courant de ces méthodes, ils ont souvent honte d'aller dans un service de santé pour avoir des informations. Ce qui fait qu'on croit aux rumeurs comme Rose qui l'a fait dans l'histoire. Et finalement, on se retrouve dans des problèmes. On peut aussi ajouter qu'il y a d'endroits pour les jeunes. Je prends l'exemple des centres jeunes de la BPF. Il y en a en ville ici, mais pas dans les zones rurales, il n'y a pas de centre jeune. Ça fait que les jeunes sont obligés d'utiliser le même centre de santé que leur mère, que leur grand-mère. Ça crée un complexe quand tu arrives à trouver ta mère qui est aussi dans le rang. Tu es arrivé pour prendre des informations sur la contraception. Bon, c'est un peu gênant, quoi. C'est pourquoi les jeunes ne partent pas dans les centres de santé.
Quels sont les obstacles qui limitent l'accès des jeunes aux informations et aux services en matière de contraception? C'est la question. On est à vous, Michel.
Bon, selon moi, il y a l'ignorance qui est là parce qu'ils ne sont pas bien informés. Et puis, il y a le coût aussi. C'est vrai que les préservatifs coûtent moins cher, mais un jeune qui ne travaille pas, pour prendre de l'argent, aller payer alors qu'il n'en a pas à manger. Donc je pense que ça aussi, ça peut être un obstacle. Et au niveau des centres de soins, il y a la consultation qui est payante et il y a le produit aussi qui est payant. C'est vrai que c'est moins cher, mais pour quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas. Je pense qu'il y a l'ignorance et puis il y a les coûts, les moyens financiers.
L'ignorance est un problème, les moyens financiers et même le système éducatif également fait défaut. C'est entre autres les problématiques que vous avez soulevées concernant donc ce problème. Nous allons une fois de plus, tout en vous remerciant pour vos réponses bénéfiques pour cette émission. Après avoir écouté les citoyens sur la question dans la ville de Ouagadougou, nous nous sommes intéressés à un spécialiste pour avoir des réponses plus nettes. Comme dans chaque émission, nous allons donner la parole à un spécialiste pour nous apporter plus d'informations sur le sujet. Mesdames et messieurs, votre rubrique éclairage de spécialiste. Nous accueillons aujourd'hui un gynécologue, Dr Ouédraogo.
Je suis le docteur Ouédraogo Sayoudou, gynécologue obstétricien au CMA de Kosodo.
Alors, docteur Ouédraogo, pourquoi il est important que les jeunes puissent avoir accès à la contraception?
Je pense que la contraception est très importante pour les jeunes parce que ça leur évite d'avoir des problèmes très tôt, comme les grossesses à risque. Parce que les grossesses, quand on les prend très jeunes, c'est dangereux pour la santé.
Quelles sont les différentes méthodes de contraception, docteur?
Il faut dire qu'on a plusieurs méthodes de contraception que nous avons à la disposition du public. La première méthode, ce sont les contraceptifs, les pilules. Les pilules qu'on donne, et ça, c'est des médicaments qu'il faut prendre tous les jours à heure fixe, parce que si vous décalez ça de plusieurs heures, ça peut changer. Et il y a aussi les méthodes, les implants. Ça veut dire que c'est des tiges, deux tiges qu'on met au niveau du bras, et ça peut protéger aussi contre la grossesse. Il y a également aussi le DU, le dispositif intra-utérin. C'est un tube en cuivre petit, environ 2 cm, qu'on met dans l'utérus et qui permet d'éviter de tomber enceinte. Ça évite le croisement entre les spermatozoïdes et les ovules, donc évitant ainsi la grossesse. Et comme autre méthode aussi, il y a les injectables. Il y a des méthodes injectables que l'on utilise, et lorsque ça, on peut les faire soit tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Voilà. Mais je crois qu'au Burkina, on utilise les 3 mois. Voilà. Et ça aussi, quand vous prenez l'injection, c'est chaque 3 mois que vous venez et on renouvelle l'injection. Voilà, je pense que ce sont ces différentes méthodes que nous avons qui sont des méthodes conventionnelles. Il y a d'autres méthodes qui sont d'ordre traditionnel, comme les espacements là. Et avant, bon, il y avait des méthodes traditionnelles. Hein. Par exemple, on quittait chez les femmes, on les envoyait chez leurs parents pour éviter d'être avec le mari pendant la période où on ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Par exemple, c'est la couche. On l'envoie chez ses parents, il va lui faire 2 ans avant de revenir.
Alors docteur, dans notre micro-trottoir aussi, l'abstinence nous est revenue à plusieurs reprises. Elle fait partie de quel lot de méthodes?
Bon, l'abstinence, oui, c'est une méthode, en tout cas préconisée par la religion, toutes les religions d'ailleurs. Et c'est une bonne méthode. Si les jeunes arrivent à se conserver jusqu'au mariage pour avoir les rapports, c'est l'idéal. Et maintenant, c'est la faisabilité, quoi.
Après avoir présenté toutes ces méthodes, comment peuvent-elles répondre aux besoins des jeunes au Burkina Faso?
Pour répondre aux besoins des jeunes, il faut d'abord que ces méthodes soient accessibles, qu'on puisse les disponibiliser dans tous les points où on peut avoir des jeunes et où les jeunes pourront aller sans gêne voir les prestataires et puis poser leurs problèmes. Il faut que ces méthodes soient disponibles.
Docteur, dans notre micro-trottoir, les populations ont parlé des complications liées à la contraception. Je vous propose de les écouter avant de poursuivre.
Les pilules, déjà, ça a souvent des effets négatifs.
Bon, je trouve que c'est mieux de s'abstenir. Sinon, l'utilisation de préservatifs n'est pas efficace. Ça ne protège pas à 100%. Bon, même si c'est côté grossesse, bon, ça se pète. La fille peut tomber enceinte. Malgré qu'ils ont eu à utiliser les préservatifs.
Ça joue souvent sur les trompes et ça empêche, ça entraîne la stérilité.
Comme inconvénient, souvent il y a des femmes quand elles placent ça, elles voient leur menstrue tous les jours, souvent de façon abondante. Il y a certaines femmes aussi quand elles le placent, après quand elles l'enlèvent, il y a un temps. Puisqu'il faut un temps pour que l'effet du produit quitte le corps. Donc ça dépend du système menstruel de tout un chacun. Voilà. Souvent aussi, il y a des gens, quand elles font ça, elles ont des palpitations, accélérations cardiaques, d'autres maladies. Voilà. Je pense qu'il y a des inconvénients aussi.
Nous n'avons pas expliqué tout, mais je pense qu'il y a des femmes qui mettent, c'est bon à elles. Mais il y a des femmes qui mettent aussi, c'est pas bon. Ça fait grossir, bêtement. Donc, je pense que c'est pas bon. Il y en a, c'est qu'on met dans le bras là. Et si tu grossis beaucoup, ça disparaît. Donc pour enlever là, c'est pas facile. Ça aussi, ça peut pas durer dans le corps. Les piqûres aussi, ça fait. Tu vas perdre plus de 3 mois, tu vas pas tes règles. Et puis quand ça va revenir là, tu pourras pas. Ça fait à les autres comme ça. Mais il y a des autres que ça va. Il y a des comprimés aussi. Les comprimés aussi, si tu oublies aussi, ça aussi, c'est un problème pour toi. Tu vas tomber dans des pièces. Non, c'est pas facile.
Toutes les personnes que nous avons interrogées, surtout les femmes, ont parlé aussi des effets indésirables de ces méthodes-là. Alors, docteur, qu'en est-il exactement?
Bon, ça dépend, effectivement, comme certains l'ont dit, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. C'est pourquoi l'agent, il ne faut pas le prendre, il faut voir d'abord un agent de santé qui va vous examiner et en fonction des questions qu'il va vous poser, il peut vous donner le contraceptif qui vous est adapté. Donc, sinon, les effets secondaires, bon, il y a des effets secondaires. Par exemple, prendre le poids, ça, effectivement, il y en a qui donnent ça comme les pilules et puis le Jadel. Ça, ça peut faire grossir. Mais bon, il faut voir le bénéfice-risque, voilà. Et il faut, et si ça fait grossir beaucoup, bon, on peut changer de méthode, voilà. Il y a le DU aussi qu'on met, ça c'est ce qu'on met au niveau de l'utérus. Voilà, quand on le place, certaines femmes peuvent voir des petits saignements dans le bois. Des petits saignements. Bon, sinon, c'est pas que ça saigne beaucoup, mais ça peut avoir des petits saignements, mais ça aussi on peut le traiter. Ça peut se traiter, il suffit de revenir et on vous met sous traitement et ça, ça rentre dans l'ordre. Maintenant, si ça ne rentre pas dans l'ordre, on change de méthode. Ça veut dire que votre organisme n'accepte pas cette méthode.
Le cœur qui bat plus vite là.
Le cœur qui bat plus vite, ça c'est peut-être, puisque moi je me dis que ça doit être les pilules. Et en fonction des pilules, ça aussi, nous avons des pilules qui sont micro-dosées. Parce qu'avant, on avait des pilules macro-dosées. Et quand c'est macro-dosé, ça veut dire que les hormones sont en quantité jusqu'à 50 gamma. Et là, effectivement, ça peut envoyer des effets cardiovasculaires. Mais actuellement, nous avons des pilules qui sont micro-dosées. Et donc, le taux d'estrogène est minime, juste efficace pour éviter de tomber enceinte. Et donc, ça, ça donne moins de palpitations. Sauf si vraiment, vous êtes une patiente très, très réceptive, quoi.
Nous avons aussi parlé des méthodes irréversibles. Quelles sont les conséquences de ces méthodes?
Bon, les méthodes irréversibles, c'est comme la ligature des trompes. Ça, c'est au niveau de... On fait des petites interventions et qu'on va, on ligature les trompes. Bon, si on ligature, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication entre l'ovaire et la cavité utérine. Donc, quand l'ovaire va ovuler, va faire sortir son ovule, l'ovule ne pourra pas migrer et venir dans la cavité utérine. Tout comme le spermatozoïde ne peut pas quitter de la cavité utérine pour aller à la rencontre de l'ovule. Donc il y a une barrière qui est supprimée, qui est créée et donc il n'y a pas de croisement. Voilà. Et irréversible parce qu'on ne peut plus rétablir. Dans notre contexte, voilà. Sinon dans les pays très développés, bon, et ils ont des systèmes où ils peuvent de temps en temps remettre ça en place, mais chez nous, c'est irréversible. Et ça, habituellement, on le réserve vraiment aux femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui ne veulent plus accoucher.
Merci, docteur, pour avoir bien voulu répondre à nos questions, mais aussi aux interrogations des populations. Alors, quel est le mot de la fin?
Et je pense que la contraception, c'est une bonne chose. Ça permet aux jeunes d'être en tout cas, d'avoir une sexualité responsable et ne pas être surpris par des événements qui vont impacter sur leur activité scolaire surtout. Parce que la plupart sont des jeunes qui sont à l'école et il ne faut pas qu'une grossesse empiète sur leur travail scolaire.
Merci à vous, docteur Ouédraogo, et à nos chers auditeurs. J'espère que les informations de notre spécialiste vous seront utiles. N'ayez pas peur d'aller vers les structures de santé pour vous informer. Chers invités, qu'est-ce qui peut être entrepris selon vous pour faciliter l'accès à la contraception des jeunes sexuellement actifs au niveau des familles et de la communauté, au niveau des systèmes de santé? Mademoiselle Laure Bonkungu, vous allez vous jeter la première à l'eau.
Au niveau de la famille, je crois que ce qui peut être fait, c'est de trouver une atmosphère favorable pour parler de la contraception. On voit que c'est un sujet vraiment tabou dans les familles. Nos parents ne prennent pas le temps de nous enseigner sur la sexualité. Ça fait qu'on l'apprend sur le tas à travers nos camarades. Ce qui fait que le plus souvent, on a des informations erronées. Je crois que la solution serait de favoriser le dialogue en famille, qu'on puisse parler de sexualité sans tabou et que les enfants puissent poser les questions. Nous avons vu que dans l'histoire, Rose a dit quand elle a développé sa plaie, elle ne savait pas avec qui parler. Si ses parents avaient l'habitude de lui parler de sexualité, elle serait allée facilement vers sa mère ou son papa lui dire « J'ai vu que ces derniers temps, j'ai vu une plaie sur mon sexe. » Et facilement, on aurait pu régler le problème sans que la maladie ne puisse s'aggraver.
Ok, là c'est au niveau de la famille et au niveau des systèmes de santé.
Au niveau des systèmes de santé, je peux dire qu'on devrait revoir le budget et augmenter le budget qui est alloué pour les produits contraceptifs pour les jeunes. Et aussi, on peut faire des plaidoyers pour la gratuité des contraceptifs pour les jeunes.
Monsieur Arsène, on est à vous avec la même question, ou du moins les mêmes questions. Qu'est-ce qui peut être entrepris selon vous pour faciliter l'accès à la contraception des jeunes sexuellement actifs, d'abord au niveau des familles et de la communauté, puis au niveau des systèmes de santé?
Il faut qu'on arrive à mettre en place dans nos familles et une harmonie. Ça veut dire arriver à faire un dialogue, à s'asseoir, à discuter, et pour que cela ne soit plus un tabou, parler avec les jeunes, parce que c'est eux qui sont sexuellement actifs. Voilà. Donc, si ces jeunes-là sont protégés, normalement, tout doit aller. Et pour la communauté, bon, il faut dans l'ensemble faire des campagnes et mettre disponibiliser par exemple ces produits là pour la communauté, parce que nous voyons tout à l'heure que Marinette vient de dire que souvent le prix là fait obstacle à l'accessibilité de ces produits là. Par exemple, quand on voit par exemple les condoms, par exemple, et les condoms masculins, il y en a partout, les jeunes peuvent s'en procurer, mais par exemple les condoms et féminins, par exemple, on ne peut pas les avoir partout. Voilà. Et le plus souvent, les centres de santé sont vraiment très éloignés. Tu peux peut-être... Il y a toujours des coins où les centres de santé sont très éloignés. Et pour les avoir, tu peux avoir la volonté même d'aller, mais bon, compte tenu de la distance, ça peut décourager. Et le fait même d'attendre et puis ne pas aller, et dès ce soir, tu peux rentrer en contact et faire des intimités et avoir des problèmes. Et maintenant, et pour aller au niveau du système de santé, il faut mettre vraiment des programmes en place, mener des campagnes pour vraiment promouvoir la gratuité de ces produits-là. Installer beaucoup de centres d'écoute et de conseils pour jeunes, pour beaucoup sensibiliser les jeunes. Là, si les jeunes ont des problèmes, ils peuvent se rendre dans ces centres-là et puis expliquer. S'ils ont des conseils, s'ils ont besoin de conseils, ils en auront aussi.
Alors, Michel, vous devrez être la plus heureuse aussi sur ce plateau, parce que Arsène vient de vous baptiser Marinette. Ça vous fait un deuxième prénom.
Vraiment. Alors, merci.
Merci beaucoup à vous, Arsène. Alors, c'est la même question. Selon vous, donc, qu'est-ce qui peut être entrepris pour faciliter l'accès à la contraception des jeunes sexuellement actifs au niveau des familles et de la communauté, puis au niveau des systèmes de santé?
Pour ma part, je dirais au niveau familial, il faut que les parents soient ouverts aux enfants en matière de sexualité et en plus, comment éviter les méthodes à utiliser. Il faut que les parents orientent leurs enfants dès le bas âge et que ce sujet ne soit plus tabou dans la famille. Et pour la communauté, je dirais une campagne de sensibilisation au sein même de la communauté. Par exemple, les associations, les femmes qui ont des associations, ils peuvent demander à avoir des campagnes de sensibilisation là-dessus. Et au niveau du centre de santé, au lieu que les produits soient au niveau de la formation sanitaire, ils peuvent permettre à des personnels non qualifiés d'agents de santé de pouvoir avoir peut-être certains produits à l'accès de la population. Parce que souvent, si tu vois que tu dois te déplacer, aller faire le rang pour avoir une consultation et avoir la méthode que tu veux, souvent c'est une perte de temps. Mais s'il y a des personnes formées qui savent comment donner ces produits, ils peuvent la personne peut aller vers cette personne-là et puis avoir son produit sans perdre de temps et puis sans être vue. Parce qu'il y a des familles aussi qui refusent. De nos jours, il y a des familles qui refusent qu'on utilise les produits contraceptifs. Par exemple, si ton mari ne veut pas, si ton papa ne veut pas, alors qu'il te faut vraiment une contraception, tu peux aller vers ces personnes-là. Valoriser la promotion de ces produits, des produits contraceptifs.
Il est souvent facile de trouver des personnes qui s'engagent pour la démocratie et les droits de l'homme. mais peu de gens se sentent concernés par le combat sur l'accès à la contraception pour les jeunes. Ce n'est pas le cas pour notre champion. Lui, il est convaincu que c'est un combat aussi noble que la démocratie et les droits de l'homme. D'ailleurs, c'en est un. Mesdames et messieurs, notre champion, Geneviève Tarnagda.
Moi, je réponds au nom de Tarnagda Geneviève Clémentine. Je suis la présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale du Burkina. Il faut dire que ce qui m'a motivée à adhérer à cette cause, c'est le choc causé par le décès d'une amie, parce que quand on était en classe de 4e, depuis Koudougou, une amie qui a été victime de grossesse non désirée et qui a tenté d'avorter a succombé. Alors je me suis posé la question, pourquoi elle, si cela l'est arrivé, peut-être aussi ça pourrait m'arriver. Je me suis renseignée auprès de mon établissement, en son temps le collège Saint-Joseph Moukassa, et je suis tombée sur un professeur encadreur qui œuvrait avec un mouvement associatif, qui œuvrait avec la BBF, donc l'Association Burkinabé pour le bien-être familial. Et c'est lui qui m'a orientée vers la BBF, et vu ma motivation, mon engagement, on m'a recrutée au niveau de la BBF en tant que père éducatrice. Donc j'ai commencé là-bas avant d'adhérer à leur mouvement, le mouvement d'action des jeunes. Et voilà aujourd'hui qu'à travers la BBF, j'ai pu adhérer au réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale. C'est surtout les sensibilisations, la promotion des méthodes de contraception. Si je prends le cas du réseau des jeunes ambassadeurs, nous œuvrons plus sur les réseaux sociaux à travers Facebook, WhatsApp, Twitter ou WordPress. Aussi, nous rejoignons les jeunes aussi et au niveau des quartiers pour faire des thé-débats. Et souvent, on réunit les jeunes autour de leur centre d'intérêt, à savoir les matchs de football ou les soirées culturelles, pour pouvoir passer notre message au niveau des jeunes. C'est surtout les messages de sensibilisation et de promotion pour les méthodes de contraception. Parce que beaucoup ignorent le problème de grossesse non désirée et d'IST au milieu jeune. C'est souvent dû à l'ignorance. Et surtout que on considère aussi la sexualité comme étant un sujet tabou, donc ce qui fait que les parents ne parlent pas de cela avec les jeunes. Et c'est surtout la sensibilisation qu'on fait à travers nos pères jeunes. Aux décideurs, nous allons demander nous plaidons d'abord pour la gratuité de ces méthodes de contraception là au niveau des jeunes, parce que souvent quand on est en contact avec les jeunes, beaucoup évoquent le cas de la pauvreté. Donc c'est surtout plaider pour la gratuité de ces méthodes de contraception-là. Et aussi les demander de pouvoir inscrire la contraception, ça veut dire la santé sexuelle et la reproduction, dans les curriculums scolaires, pour qu'on puisse enseigner ça dès le bas âge. Et pour que les jeunes aussi puissent s'en approprier et pouvoir éviter de gâcher leurs avenirs à travers une grossesse ou une IST.
Comme vous l'entendez. Nous allons dire merci à nos trois invités, à commencer par vous, Michel Poiga. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous également.
Également à vous, mademoiselle Laure Bonkungu. On va vous dire merci d'avoir participé à ce débat.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette émission.
À vous, Arsène Ouedraogo, merci également d'avoir répondu à cette invitation.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi.
Et à vous tous, on va vous dire merci pour votre disponibilité et votre habileté à répondre à des questions aussi jugées sensibles très souvent. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine pour aborder un autre sujet qui concerne notre jeunesse, l'avenir de notre chère pays. Merci, chers invités, d'être venus et merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. À la présentation, Gérard Sanou. À bientôt.